pour te mesurer au désert et à la mer. Faut que tes rêves soient vraiment forts, que sur ton radeau tu défies la mort. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Tu penses aux ancêtres qui bien avant
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, qui vous a préparé des cocktails de sa, cocktails musicaux, ça va sans dire, de sa préparation. Et aujourd'hui, nous recevons Agnès Clancier pour Dans le rêve de l'arbre creux. C'est un roman qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Agnès Clancier, bonjour.
Bonjour Valère, merci de me recevoir.
Alors c'est vrai que je vous avais reçu pour un autre livre sur une aviatrice passionnante. Hein. C'était Une trace dans le ciel, je crois.
Oui, c'était en 2017, la première édition d'Une trace dans le ciel qui racontait la vie de Maryse Bastier, la plus grande aviatrice du monde dans les années 30 et qui était aussi une grande résistante. Et d'ailleurs, ce livre vient d'être réédité aux éditions Magellan et compagnie sous le titre Maryse Bastier, Une trace dans le ciel.
Ben voilà, donc ça donne nos auditeurs, ils peuvent le trouver dans ce format Magellan et compagnie, nouvelle maison d'édition.
Oui,
mais c'est vrai que c'était vraiment... c'est l'itinéraire d'une femme, Maryse Bastier. J'avais beaucoup aimé ce livre et l'itinéraire de cette femme. Et là, de nouveau, vous nous racontez finalement l'histoire d'une autre résistante, on pourrait dire.
Oui.
Donc là, c'est un roman qui se situe au 19e siècle, hein, c'est ça ?
Fin du 18e.
Fin du 18e, excusez-moi. Alors là,
non, c'est à quelques années près, c'était
non.
Ça.
Elisabeth Murray. Alors, oui. Et vous nous entraînez. Donc, alors, est-ce que ce livre, d'abord, Dans le rêve de l'arbre creux, est-ce que c'est la suite logique de Port Jackson?
Alors c'est totalement la suite, même si les deux livres peuvent se lire de manière complètement indépendante, parce que d'abord il y a beaucoup d'années se sont passées entre les deux livres, 17 ans. D'ailleurs mon éditeur a présenté Dans le rêve de l'arbre creux en disant 17 ans après Port Jackson, Agnès Clancier libère enfin Elisabeth Murray.
Voilà, ouais. Présentez-nous cette Elisabeth Murray.
Alors, comment est-ce que ce personnage, comment est-ce que je l'ai créé?
Oui.
Lorsque je vivais en Australie au début des années 2000, je me suis passionnée pour l'histoire de ce pays et notamment pour cette partie de l'histoire où les Anglais arrivent là-bas à la fin du XVIIIe siècle sur un territoire qui est totalement, inconnu. À l'époque, l'Australie, on n'est même pas capable d'en tracer précisément les contours puisque personne n'a encore longé la côte sud. On n'en connaît que quelques morceaux de côte, et notamment en 1770, le capitaine Cook a fait escale sur la partie est du continent, dans un lieu qu'il a baptisé Botany Bay, parce qu'il était accompagné de botanistes qui ont été émerveillés par la luxuriance de la végétation. Voilà, il a fait des rapports dithyrambiques à Londres sur ce morceau de terre, ce morceau de planète qui paraissait vraiment une sorte de paradis sur terre, un lieu où il semblait facile de vivre. Et les autorités de Londres qui cherchaient un endroit pour se débarrasser de leurs prisonniers, qu'elles avaient l'habitude d'envoyer dans les colonies américaines, mais avec la guerre d'indépendance, elles ne pouvaient plus le faire. Donc les prisons londoniennes débordées. Ça, c'est une constante de l'humanité, que les prisons sont toujours trop pleines. C'est vrai partout, toujours. Voilà. Et donc, elles ont cherché un lieu pour vider un peu les prisons qui débordaient. Donc, elles ont essayé l'Afrique, mais tout le monde est mort très vite, n'est-ce pas? Et donc, à la suite de ces rapports du capitaine Cook, ils ont décidé d'envoyer là-bas 11 bateaux, qu'on a baptisés par la suite la première flotte, en se disant que dans un territoire aussi bien doté par la nature, ça coûterait pas trop cher une colonie. Et en 1788 sont arrivés donc ces 11 bateaux de la première flotte, avec notamment un des bateaux rempli de femmes, 200 prisonnières sur le millier de prisonniers qui étaient là. Et moi, je me suis passionnée pour cette histoire, parce que je trouvais déjà assez... éprouvant d'émigrer en Australie. J'avais 40 ans à l'époque, ma fille était petite, enfin bref, et c'était à l'autre bout de la planète, et je ne savais rien, moi, de ce pays, enfin pas grand-chose. Et je me disais, mais à la fin du 18e, mais qu'est-ce que ça pouvait être d'aller de l'autre côté de la Terre? Il faut se rendre compte que les prisonniers qu'on a envoyés là-bas, la plupart étaient convaincus que la Terre était plate.
Ouais.
Donc ils pensaient qu'on les envoyait au bout du monde pour les jeter dans le vide, en fait. Donc c'est vous dire enfin l'état d'esprit dans lequel ils pouvaient être, sans compter les conditions de vie sur les bateaux qui faisaient qu'on avait quand même de grandes chances d'y rester et de ne jamais débarquer. Le voyage pouvait prendre une année entière. La première flotte a mis 8 mois, mais par la suite d'autres ont mis encore plus longtemps que ça. Et donc j'ai lu tout ce qu'avaient écrit les gens qui faisaient partie de cette première flotte. Les officiers faisaient des rapports, ils écrivaient des journaux. Ils envoyaient des lettres, et pas seulement les officiers, il y avait des soldats aussi qui étaient assez lettrés pour envoyer des lettres à leur famille, et même des prisonniers, certains étaient capables de le faire, et d'ailleurs écrivaient des lettres pour les autres, quand ils en étaient capables. Et alors c'était passionnant de lire tous ces comptes rendus, parce que j'étais plongée dans la vie de la colonie, comme si j'y étais, quoi, parce qu'ils faisaient des comptes rendus vraiment très précis de chaque petit événement qui arrivait tous les jours, et en lisant les rapports de personnes différentes, on avait des points de vue différents du même petit événement. Et ça, c'était absolument, pour un écrivain en plus, assez fascinant, parce que, oui, on pouvait voir à quel point un événement pouvait être interprété de manière totalement opposée par deux personnes, voilà, selon qu'elles étaient en conflit entre elles. Enfin bon. Et puis, je me suis aperçue quand même, au bout d'un moment, qu'il y avait 200 femmes, donc, mais que je n'avais rien d'elles. Il n'y avait aucun écrit sur les femmes de la première flotte. C'est là que j'ai eu l'idée d'écrire un livre qui raconterait les premières années de la colonie par les yeux d'une de ces prisonnières. Et donc, j'ai créé une prisonnière un peu représentative de ce qu'était la majorité d'entre elles, donc le délit pour lequel elle a été déportée, son nom. Enfin voilà, j'ai voulu en faire quelqu'un d'assez représentatif. La seule petite excentricité que je me suis permise, c'est qu'effectivement, elle sait lire et écrire. J'explique pourquoi dans les deux livres, d'ailleurs. Parce que, bon, ça avait été utile pour le récit. Mais voilà, j'ai créé ce personnage pour cela, pour donner le point de vue d'une femme sur cette période.
Cette période. Alors, c'est comme si vous vous créez un double de papier, alors que vous-même, au moment où vous découvrez l'Australie, vous vous approuvez en tant qu'écrivain la nécessité de vous créer un double dans le temps.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça.
De vivre par l'écriture, de revivre par l'écriture votre expérience, bien sûr, des siècles plus tard, mais votre approche de l'Australie, elle a été doublée de cette approche littéraire, on pourrait dire.
Quand on dit que la vie ne suffit pas, c'est vraiment... je l'ai expérimenté d'une manière on ne peut plus directe et immédiate. C'est vrai que dans la journée, je travaillais dans la City, qui est le lieu le plus moderne qui soit. C'est un peu comme New York, où il y a un cultif, enfin bref. Et la nuit, je lisais les rapports des officiers de la première flotte, en vieil anglais, vous voyez, donc je suis un peu folle. Mais c'est vrai que, et comme je faisais ça tous les soirs, j'avais une grande proximité. Je me souviens qu'au bout de... Oui, quand j'ai eu fini d'écrire mon livre, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu deux fois en Australie.
C'est ça.
Une fois de 2003 à 2006 et une fois de 1788 à 1790.
Ouais.
C'était très présent en moi. Ces deux expériences étaient presque, enfin, je dirais pas presque aussi fortes l'une que l'autre, mais enfin pas loin, quoi. Et oui, c'était un peu un double, oui.
Une sorte de double. Oui. Vous avez votre double qui a besoin d'explorer par les mots ce que vous vivez. En réalité, quoi.
Oui.
Alors, il y a une date, 1791, c'est une date quand même post-révolutionnaire. C'est pas un hasard, je suppose, que cette date-là a son importance. Vous nous présentez donc, on suit Elizabeth Murray, c'est une donc jeune Anglaise qui a été condamnée pour un délit mineur et qui a été envoyée dans une colonie pénitentiaire pour y purger une peine à échéance à vie, à sa vie. Hein. Oui. C'est vraiment, mais c'est très dur. Alors on voit toute la dureté pour les femmes de l'époque et pour les peines. Alors il y a une double peine, j'allais dire. Il y a la peine des prisons et puis il y a la peine des femmes.
Oui, alors bon, pour les femmes, c'est toujours plus difficile que pour les hommes, dans toutes les périodes et partout. C'était dur pour les hommes aussi, hein, parce qu'être déporté pour un larcin mineur, qu'aujourd'hui on considère comme mineur, qui n'était pas considéré comme mineur à l'époque, c'était aussi le fait des hommes. Là où le fait d'être une femme, finalement, l'a plutôt servi, c'est qu'une fois arrivée là-bas, elle a réussi à se faire engager comme gouvernante chez un lieutenant. Et là, ça lui a conféré un statut assez protecteur, quand même. Elle était moins maltraitée que ceux qui étaient... qui étaient affectés à des travaux de construction, ou de terrassement, ou à la fabrication de la chaux pour les bâtiments, etc. Donc, c'était une vie un peu plus facile qu'elle a eue.
Alors c'est l'histoire aussi d'une double évasion, on peut dire, parce qu'elle s'évade donc de la colonie pénitentiaire, hein, et elle va découvrir, donc elle va se retrouver dans la nature. C'est une double évasion, parce que il y a l'évasion donc de fait, et puis après il y a l'évasion dans la nature, et puis l'évasion aussi, elle découvre ce qu'on appelle le bush, on pourrait dire que c'est un récit initiatique, ce roman, Agnès Clancier.
Oui, certainement. Effectivement, au moment où elle s'évade, il faut un peu expliquer pourquoi elle s'évade, parce que après tout c'est pas forcément une bonne idée. On peut, intuitivement, on se dit, mais enfin, pourquoi s'enfuir dans un pays que personne n'est encore exploré? On imagine en premier lieu les risques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là, de la colonie, 3 ans après l'instauration de la colonie, tout le monde était en train de mourir de faim dans la colonie, parce que les bateaux de ravitaillement qui avaient été prévus ne sont pas arrivés. Ce qui est arrivé, c'est une deuxième flotte remplie de prisonniers mourants, ou certains déjà morts d'ailleurs, parce qu'elle avait été affrétée par confiée à une compagnie privée qui était rémunérée sur le nombre de prisonniers embarqués, mais pas sur le nombre de prisonniers débarqués, ce qui fait que sur les 1000 prisonniers de la deuxième flotte, il y en a 300 qui sont morts pendant le voyage, et ceux qui sont arrivés étaient dans un état, enfin ils étaient incapables de travailler, et beaucoup sont morts dans les jours qui ont suivi. Et alors que la colonie, elle attendait du ravitaillement, et elle en avait un cruel besoin, parce qu'elle arrivait au bout de ses ressources. Et donc c'est une période extrêmement dure, où les châtiments sont terribles, et où tout le monde meurt de faim. Et elle perd son protecteur, le lieutenant chez qui elle travaillait, elle perd aussi son amoureux, un soldat qui est pendu pour avoir tué une aborigène, et... À ce moment-là, elle ne voit pas d'autre salut que dans la fuite, parce que sa vie au sein de la colonie, enfin, elle voit tout le monde mourir autour d'elle. Elle se dit que plutôt que d'attendre une mort lente ici, elle se dit qu'elle peut peut-être avoir une chance de survivre avec des indigènes, le temps de trouver un moyen de revenir en Angleterre. Et elle pense cela parce que, au début de la colonie, les relations entre les indigènes et les colons n'ont pas été mauvaises au départ. Au départ, il y avait, une sorte d'observation réciproque, à la fois de la méfiance et de l'indifférence. Après, il y a eu un dialogue, et le premier gouverneur de la colonie était quelqu'un de très ouvert et très humaniste, et plusieurs officiers aussi l'étaient, et avaient très envie de connaître ces peuples, d'apprendre leur langue, de communiquer avec eux, et de s'en faire des amis. D'ailleurs, c'est amusant, parce que un des lieutenants de la première flotte, qui s'appelait Tench, Watkin Tench, a écrit lui aussi le récit de l'arrivée de ce voyage et des premières années de la colonie. Mais alors lui, il était beaucoup plus dégourdi que moi, parce que bien que vivant à la fin du XVIIIe siècle, Il avait passé un contrat avec un éditeur avant de partir.
Ah bah oui.
Ce qui fait que il a raconté l'année 1788 et le début de l'année 1789 tout en et il a publié ça à Londres en 1789. Ce qui est quand même voyez, moi je mets beaucoup plus de temps que ça pour publier mes livres. Donc je trouve ça assez remarquable. Et donc ce lieutenant dans son livre, il écrit quelque chose comme en parlant des indigènes, notre premier objectif était de nous gagner leur amitié et le second de les convaincre de notre supériorité.
Oui.
Et c'est très amusant parce qu'au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on a ? On a une colonie de quelques 2000 Européens qui sont en train de mourir de faim tout en travaillant comme des forçats, et autour d'eux, quelques centaines d'indigènes qui passent l'essentiel de leur temps à se prélasser, à danser, à chanter, qui paraissent très très bien nourris, enfin voilà. Et donc la supériorité, elle est finalement au bout de 3 ans, elle n'est pas très évidente, quoi. Et donc, on peut comprendre que cette prisonnière, et que d'autres prisonniers, d'ailleurs, avant elle, puissent se dire, mais on se débrouillera mieux hors de la colonie que dans la colonie.
Évasion de la colonie, c'est ça que je voulais dire. Et puis après, évasion aussi, elle se retrouve dans la nature, évasion aussi de la nature, puisqu'elle va retrouver les indigènes. Et après, elle n'arrête pas de s'évader, cette femme, enfin, finalement. Elle pousse les frontières sans arrêt.
Oui, sans arrêt, oui. Elle franchit sans arrêt des frontières.
Un peu dans un rite d'initiation aborigène, puisque nous avons parlé des aborigènes, forcément.
Oui. C'est une longue initiation à laquelle elle est finalement confrontée. Elle est confrontée à sa solitude et à la survie seule, ce qui n'est pas forcément évident, mais elle s'est préparée à cela. Et c'est vrai que quand elle rencontre cette tribu, alors ça ne se fait pas en un jour, la tribu l'observe longtemps, elle sent qu'elle est observée. Donc elle n'a pas spécialement peur, parce que s'ils avaient voulu la tuer, ils l'auraient fait avant même qu'elle se rende compte de quoi que ce soit. Donc il y a plusieurs jours où la tribu se laisse voir de plus en plus, d'une manière de plus en plus proche. Et puis un jour, la rencontre a lieu et elle s'aperçoit qu'ils acceptent qu'elle reste avec eux. Et donc elle apprend, elle les suit et elle vit à leur manière, avec eux.
Voilà ce que vous écrivez. D'ailleurs, c'est une sorte, chacun s'apprivoise, car chaque histoire a ses passeurs, chaque tribu ses messagers. Les récits circulent, se croisent et se nourrissent les uns les autres, entretiennent les mythes et les chants semés le long des pistes. Ainsi se transmettent d'un horizon à l'autre, de génération en génération, les savoirs et les péripéties de la vie des peuples, la danse des paysages et les tressaillements du monde. Alors j'ai l'impression aussi dans votre livre, et ce que vont s'apercevoir les auditeurs qui vous liront, c'est qu'il y a une sorte de... Vous êtes mis au diapason et du paysage et du rythme et du souffle des êtres qu'elle croise, du peuple qui est là. Il y a une sorte de souffle qui traverse votre roman, Agnès Clancier, qui... Oui, il y a une sorte d'orchestration, je veux dire, de symbiose entre votre écriture, le rythme de votre écriture et la présence des lieux.
Oui, et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre Port Jackson et Dans le rêve de l'arbre creux. L'écriture, elle est forcément très différente. Et justement, pour ce que vous dites, vous venez très bien de le décrire. Et d'ailleurs, quand j'avais écrit Port Jackson, j'avais voulu donc rendre compte du point de vue d'une femme, mais j'avais voulu aussi, ça faisait partie de mes ambitions, je m'étais dit aussi, mais finalement, les indigènes autour de la colonie, comment eux, est-ce qu'ils ont vu les choses ? Ils ont vu débarquer le capitaine Cook 17 ans plus tôt, 18 ans plus tôt, il était reparti, donc ils doivent penser que ces Blancs, ils vont repartir aussi, et puis ils s'aperçoivent que finalement, ils ne repartent pas, donc les choses commencent à déjà plus être... Comment est-ce qu'eux ont vécu tout ça ? Et j'avais inséré dans Port Jackson des chapitres écrits sous forme poétique. Et puis finalement, l'éditeur me les avait enlevés en me disant que il valait mieux en rester à un roman classique.
Oui, oui.
Mais j'avais gardé ces textes et plus tard, je les ai complétés. Et j'ai sorti un recueil de poèmes en 2017 qui s'appelle Outback Distill et qui retrace à la fois cette période de l'histoire et puis est aussi un hommage à la culture des aborigènes et à leur passé plus récent, qui évoque aussi des tragédies plus récentes que celles qui se sont passées au XVIIIe et au XIXe siècle. Et effectivement, quand j'ai voulu raconter la fuite d'Elisabeth et sa vie avec des aborigènes, J'ai voulu faire un roman, donc il n'était pas question de le faire sous forme de poème, mais c'est vrai que une écriture poétique, plus poétique, s'est imposée parce que pour rendre compte de cette réalité qui est tellement différente de celle que l'on connaît et des notions que nous, enfin auxquelles nous sommes habitués. Et d'ailleurs, cette question de la langue, enfin elle est très présente dans le livre parce que quand elle veut, donc elle apprend leur langue et puis elle essaye de leur apprendre l'anglais. À la fois pour parce qu'elle pense qu'ils en auront rapidement besoin et aussi parce qu'elle a peur d'oublier sa propre langue natale. Et ce faisant, elle s'aperçoit que elle est impuissante à leur parler de certaines choses qu'elle connaît parce qu'ils n'ont pas les mots dans leur langue. Mmh. Et inversement, il y a des choses qu'eux connaissent qui n'ont pas leur équivalent en anglais. Par exemple, ils ont des centaines de mots pour décrire le vent, parce que c'est très important pour eux, le vent. Et donc, il y a un mot pour dire que le vent vient de l'ouest, qu'il est humide, fort, etc. Il y a voilà, des dizaines de mots pour, rien que pour le vent. Mais évidemment, elle est incapable de leur décrire un cheval, un tramway, une ville comme Londres. Il y a des tas de choses qu'elle est incapable de leur décrire parce qu'ils n'ont pas les mots dans leur langue. Et cette question du langage, oui, ça c'est très important. Finalement, ça l'empêche d'aller au bout de. Elle pourra jamais les connaître totalement.
Non.
Pour cette raison, notamment pour cette raison-là.
Elle peut pas. Et alors, c'est un roman d'un apprentissage. Réapprentissage des sens, sans doute mon palais en a-t-il perdu la mémoire quand j'avale ce poisson cru avec tant d'avidité que si c'était de la caille rôtie. Ça, c'est l'anecdote. Et puis, moi, j'ai trouvé, oui, il n'y a pas non plus, comment dire, c'est un roman paysagiste, de paysage, tellurique.
Oui.
Il y a une sorte d'immersion dans la nature, c'est-à-dire vos personnages ne se dessinent pas complètement, j'allais dire, que comme dans un roman typiquement psychologique. Vous dites par exemple, c'est elle, je m'habitue au silence, mes victoires quotidiennes atténuent la peur et j'écoute ma fatigue. Je me repose sous un gommier bleu, humant les parfums de la terre et des arbres. J'entends les insectes et les oiseaux, la plainte froissée des rubans d'écorce qui déchirent le vent, le claquement des feuilles et sous les fourrés, la fuite des petits mammifères invisibles. Mmh. Donc il y a plusieurs notes. Il y a comme un chœur, voyez, oui. Le chœur, une sorte de chorale derrière, et la présence des aborigènes qui est là sans être là au début, elle est seule, elle est dans la nature, et puis progressivement, ces deux présences qui s'affrontent, qui se découvrent et qui se rencontrent. Alors, dit-elle, j'écoute les oiseaux qui me disent où je vis, leur chant me ramène au présent, me rappelle que je suis à l'abri, que ma solitude me protège. Que ma solitude me protège. Mm-hmm. Ça, c'est une phrase assez forte.
Oui.
Parce que chacun est dans sa solitude. Mm-hmm.
Oui, et ça se réfère aux souffrances qu'elle a quittées à la colonie.
Où, oui.
Effectivement, son rapport à la nature et à la terre et au pays qui l'entoure change une fois qu'elle est seule, bien entendu. Elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant, elle entend des choses qu'elle n'entendait pas avant, parce qu'elle était occupée, préoccupée par d'autres choses. Et puis avec eux, c'est encore démultiplié, parce qu'eux, ils ont un rapport au territoire, à la terre et à la nature qui est totalement nouveau pour elle. Elle se rend compte qu'ils n'ont pas de livre, ils n'ont pas l'écriture, mais en réalité, tout leur territoire est un livre. Les paysages sont un livre, et ils lisent les paysages. Et elle découvre que ils ont énormément de connaissances et que ces connaissances, elles sont, oui, abritées dans les paysages, dans les récits qu'abritent ces paysages, les récits, les chants, les danses. Un carrefour entre deux pistes, vous avez des récits qui correspondent à ce carrefour-là. Et c'est des récits qui peuvent qui peuvent demander plusieurs jours pour être dits. Mais qui racontent toute leur histoire et dans ces récits.
Et dans ces gestes et dans ces signes. Mmh. On va faire une petite pause musicale et puis nous reprenons notre conversation.
Depuis tu me l'as, depuis tu melody number. Ipopai, Ipopai, Golowano. Pinana pon, Pinana pon, et tambati. Temukara, Pimeari, Capinoué. Naina puna naya, mai wali pona hapa kanya, na guru sata huro, wakiri so, wakiri.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence d'Agnès Clancier, qui vient nous présenter Dans le rêve de l'arbre creux, qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Agnès Clancier, on chemine à vos côtés dans cette traversée du désert, on pourrait dire.
Oui, c'est ça.
Du désert australien. Est-ce que votre récit est finalement, n'est-il pas le récit d'une métamorphose ? Voilà ce que je lis. Je ne suis plus une prisonnière, je suis une domestique. domestique, je ne suis plus Elisabeth Murray, condamnée à Old Bailey le 10 septembre 1885 à la relégation au-delà des mers, déportée à Botany Bay avec 800 autres convicts. À l'échéance de votre vie, a dit le juge, non, je ne suis plus cette Elisabeth-là, je suis devenue une autre femme, seule de son espèce. C'est le récit d'une métamorphose, c'est aussi le roman du retour sur soi. Finalement, vous écrivez dans le rêve de l'arbre creux, bien longtemps après Port Jackson. Finalement, c'est une sorte de... On remet les compteurs, pas à zéro, mais le temps a passé. Vous revenez sur cette ère-là. Quelque chose un peu de... On relit le palimpseste de la vie, quoi. Enfin, on redécouvre un peu, avec le temps passé. Votre écriture aussi a changé, forcément. Peut-être pas.
Oui. Alors, mon écriture, je pense, change à chaque livre parce que l'écriture est un peu commandée par ce qu'on veut dire,
voilà,
et par ce qu'on écrit,
ouais,
et par ce qu'on veut, oui, décrire. Oui, c'est une transformation, en effet. À la fin de Port Jackson, je ne savais pas qu'elle s'évaderait. Elle en rêve, ce qui est normal, tous les prisonniers rêvent de s'évader. Mais après tout, on n'en sait rien à ce moment-là. Et je n'étais pas du tout... Je pensais que j'écrirais un jour la suite de sa vie, mais j'étais pas du tout certaine qu'elle s'évaderait, en fait. Et oui, 17 ans après, ça m'est apparu évident qu'elle devait le faire. Et c'est probablement une décision effectivement très difficile à prendre, même si ce qu'elle fuit, elle a de bonnes raisons de le fuir. Mais oui, c'est une renaissance pour elle.
Et pour vous, est-ce que vous retournez régulièrement en Australie? Quels sont vos liens finalement avec cette terre australienne?
Alors, oui, j'y retourne vraiment souvent et de plus en plus souvent. Enfin, en tout cas, j'y reste de plus en plus longtemps quand j'y vais.
Oui,
oui, c'est un peu... Je le considère comme mon deuxième pays. Peut-être parce que ma fille a grandi là-bas une partie de son enfance. Donc ça donne des souvenirs qui sont indélébiles et qui sont très précieux. Mais oui, c'est un pays sur... J'ai écrit, c'est mon troisième livre sur ce pays. Donc,
oui, voilà, c'est pour ça que je vous pose la
Cette fascination est indéniable, je ne la nierai pas. Pourquoi effectivement, quand je suis arrivée là-bas, alors c'est pas la première fois que ça m'arrivait, parce que les renaissances, je suis un petit peu habituée, j'ai besoin de renaître régulièrement, en fait. Mais c'est vrai que je suis allée là-bas, j'étais à peu près à la moitié de ma vie d'adulte, et oui, c'était un peu une renaissance, oui, une nouvelle vie qui commençait... Et c'est vrai que je projette probablement cela dans mon personnage, qui est beaucoup plus jeune que je ne l'étais à l'époque, mais qui, elle aussi, a déjà eu plusieurs vies. Elle a eu plusieurs vies, déjà.
Voilà, c'est le phénomène d'avoir plusieurs vies. Je sais aussi que vous avez écrit sur Bastia, alors vous êtes peut-être attirée par toutes les terres insulaires.
Alors, effectivement, les îles m'attirent particulièrement. D'ailleurs, j'ai aussi travaillé à l'île Maurice.
Voilà.
Il n'est pas impossible que j'écrive aussi sur cette île-là un jour. Bastia, c'est intéressant que vous en parliez, parce que c'est aussi un lieu où j'ai vécu une deuxième naissance. D'ailleurs, dans le livre Pour l'amour de Bastia, je dis que c'est ma deuxième ville natale. C'est fort, ça, quand même. J'y suis allée à l'âge de 25 ans, j'y ai passé un an, et depuis j'y retourne très très souvent. C'est une ville que j'adore et que voilà, et où j'ai vécu effectivement une sorte de renaissance pour des raisons personnelles que je vous épargnerai, mais oui, c'est où j'ai des souvenirs inoubliables et qui a une atmosphère que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs. Il y a des villes qui se ressemblent. Bastia ne ressemble à aucune autre ville que j'ai visitée, que je connais. Elle a une personnalité très forte, cette ville. Voilà.
C'est aussi sauvage. Enfin, je veux dire, le rapport de la terre corse avec l'Australie. Enfin, bon, oui. Vous aimez les sortes de cailloux rocheux. Enfin, moi, je ne sais pas. Enfin, je vous dis ça comme ça. Mais bon, il y a un goût chez vous pour l'insularité. Et puis, votre itinéraire personnel est assez singulier aussi, Agnès Clancier. Alors, vous êtes la petite cousine de Georges-Emmanuel Clancier, que moi, j'ai bien connu. Vous êtes née à Bellac, dans le Limousin. Vous avez perdu très tôt vos parents. Donc j'ai l'impression que... Et votre fille d'ailleurs est née en Ukraine, alors c'est tout un...
Oui.
Et vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait l'ENA. Vous avez un parcours d'écrivain voyageur quand même. À chaque fois, j'ai l'impression que vous renaissez effectivement de vos précédentes vies, que l'écriture vous suit dans vos... Comment vient l'idée d'un livre? Est-ce que celui-là, comment ce livre est-il né?
L'écriture, c'est un peu comme les voyages, effectivement. C'est une nécessité. Ces renaissances successives sont un peu une nécessité. Comment naissent les livres ? Ça, c'est compliqué à expliquer, parce que chacun a sa propre histoire. Chaque livre est lié à une période de ma vie différente. Je n'écrirai pas aujourd'hui les livres que j'ai écrits à 20 ans.
Est-ce que vous vous relisez ?
Alors, j'essaye des fois, mais c'est... J'ai l'impression de lire le livre de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, c'est quand même. J'ai un peu cette impression-là.
Parce que là, il y a vraiment une évolution dans l'écriture. Hein, proche de la poésie, proche de l'oralité, proche avec des phrases longues, amples. Je parlais du côté tellurique du roman.
Oui, mais qui est lié au fait que... on est dans un... D'abord, je décris donc leur vie, c'est-à-dire c'est une vie itinérante. Hein, ce sont des semi-nomades, donc ils passent beaucoup de temps quand même à marcher. Cette amplitude dont vous parlez, oui, elle doit être...
Il y a un rythme.
Voilà, le rythme de la marche se reflète dans celui de l'écriture.
Est-ce que vous êtes relu à voix haute ?
Souvent, je lis à voix haute, oui, souvent. Alors, ça peut être dans ma tête aussi, mais je relis, oui, beaucoup.
Vous êtes beaucoup relu
Oui, beaucoup. Oui.
Alors voilà, c'est l'apprentissage aussi de cette femme, donc elle se retrouve dans cette nature, et il y a l'apprentissage d'une autre temporalité, d'un autre espace-temps. Leur insouciance m'intrigue, dit-elle, et me reste étrangère. Je garde l'inquiétude des pauvres qui m'a permis de survivre dans le monde d'où je viens. Mais je reprends des forces, mon corps se remplit d'énergie, et le soir, je m'endors sans peur. Donc elle renaît d'elle-même, elle renaît toutes ses pérégrinations, et elle découvre un peuple d'ailleurs très différent, un mode de vie très différent. Je ne vois personne donner des ordres ou en recevoir, du moins à la manière anglaise. Donc ça, c'est important, parce que...
Oui, c'est... Alors, elle découvre ensuite, par la suite, qu'il y a quand même des règles qui ne sont pas visibles tout de suite par les étrangers. Et qu'elle ne, d'ailleurs, elle est consciente qu'elle ne les comprendra pas toutes, ces règles, même si elle reste avec eux jusqu'à sa mort. Mais parce qu'elle n'a pas été éduquée, voilà, elle n'a pas grandi avec eux, donc il lui manquera toujours des clés. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais c'est pas grave. Là, par exemple, elle va réapprendre. Alors, elle apprend, même son corps change. J'apprends à me laver avec le sable, frotter chaque pouce d'épiderme et autrement plus long que de se tremper dans un bac d'eau. Mais avec l'habitude, la pratique se révèle fort agréable. En plus d'enlever la saleté, le frottement des grains adoucit la peau et la laisse souple et fraîche comme celle d'un bébé. Donc le côté terrien, terre, la proximité même sur son corps... Une autre approche du corps.
Oui, elle se rend compte qu'on peut vivre de manière confortable avec peu de choses, en utilisant les éléments et la nature autour de soi. Mais cela suppose beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances qu'elle découvre avec eux. Et c'est très différent, évidemment, de la vie qu'elle menait à Londres ou dans la famille qui l'employait, qui est une vie basée sur l'accumulation des objets, et ceux qui sont dépourvus de richesses matérielles sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas, ils survivent mal s'ils n'ont pas les biens, suffisamment de biens. Alors que là, ils ont appris à survivre en ayant peu de choses. D'ailleurs, quand ils ne manquent pas de... Ils ont des armes et des outils, mais ils ne les gardent pas avec eux. Ils les construisent quand ils en ont besoin, et ensuite ils les abandonnent dans la nature, enfin, où ils les laissent. Et tout est comme ça. Ils vivent sur. Ils connaissent tellement bien ce territoire qu'ils lui font confiance pour les nourrir et les protéger dans l'avenir, sans avoir besoin d'accumuler des biens. Voilà.
Ouais. Par exemple, c'est la première fois que je ris avec eux en sachant pourquoi. La poussière, en maquillant nos épidermes, abolit nos différences. Il n'y a plus que des humains poudrés de rouge, des humains qui s'ébrouent maintenant à la manière des canards, faisant voler des nuages couleur sang que les gosses traversent en agitant les bras. Donc il y a une perception joyeuse aussi du corps, de réapprentissage, la notion de frontière aussi. Connaîtrai-je un jour, si elles existent, les frontières de ce territoire, où ce monde est-il si vaste que personne jamais ne saura le délimiter? Ces temps-ci, notre univers est ocre, orange ou rouge, parsemé de termitières géantes plus hautes qu'un homme. Ces gens ne cheminent pas en ligne droite et savent pourtant où ils vont. La Terre leur donne des rendez-vous, des lieux reviennent à intervalles irréguliers, des sources, des cavernes, ils se succèdent dans un ordre aléatoire et nous n'y restons jamais le même nombre de jours. Il y a tant de choses que j'ignore. Ça rejoint votre couverture, Agnès Clancy, oui. Le cercle, les petits points aborigènes,
oui.
Cette façon de faire.
Elle découvre l'insouciance et en même temps la sérénité qu'apporte la connaissance de son environnement et la capacité à vivre en harmonie avec lui. Et c'est pas du tout ce qu'elle rapporte de son expérience d'anglaise, parce que les souvenirs qu'elle a de Londres, de la vie en Angleterre, sont très très différents de cela. Et d'ailleurs, ce qui est... quand elle essaie de décrire d'où elle vient aux enfants, parce qu'elle s'amuse à créer une école pour occuper les enfants, jouer avec eux. Et donc elle essaye de leur décrire le monde d'où elle vient. Et ce faisant, elle le redécouvre. Parce qu'en fait, elle ne s'était jamais posé la question avant. On ne se demande pas d'où on vient, comment est-ce que c'est... Et en essayant de décrire ce monde d'où elle vient, elle le découvre et c'est pas une découverte extrêmement positive, quoi, parce qu'elle le voit avec leurs yeux effarés, si je puis dire. Et oui, c'est une prise de conscience assez terrible et qui refroidit un petit peu son envie de revenir, de retourner en Angleterre. Il y a un moment dans le récit où le retour en Angleterre, certes, il est toujours évident pour elle, mais il peut attendre quelques années de plus, c'est pas très grave. C'est plus une urgence, comme ça avait pu l'être. Et je pense que cette prise de conscience y est un peu pour quelque chose aussi.
Oui, c'est comme, un peu comme une mue, on a l'impression que toutes ses peaux se cicatrisent, qu'elle attend... Il y a un moment pour partir, il y a un moment pour fuir. Jamais je n'enfreindrai sciemment les règles du clan, jamais je ne prendrai le risque d'être mise au banc de la tribu. Je ne veux plus vivre seule dans le bush. Donc c'est vrai qu'elle est... Elle respecte là elle ne s'évade pas. Là, elle obéit à la tribu, alors que dans la colonie, elle obéissait pas. Donc il y a un renversement de son comportement aussi, Agnès Clancy.
C'est pas si différent que ça quand même. À la colonie, elle obéissait quand elle était la gouvernante d'un officier, elle était bien obligée d'obéir et c'était ça ou pire. Elle n'avait pas le choix non plus. Et là, c'est un choix plus positif, mais en même temps,
c'est un peu l'inconnu aussi.
Oui, elle pourrait pas survivre très longtemps seule dans le bush. Elle en était consciente dès le départ.
C'est le même soleil qui nous brûle, la même eau qui nous désaltère, les mêmes joies qui nous portent et nous font rire et danser. Ils sont devenus ma famille, sa famille d'élection, c'est celle qu'elle se choisit pour le moment. Parce que c'est une parenthèse aussi, ce roman. C'est-à-dire, il y a une évasion, on ne sait pas si elle va jusqu'à la fin. C'est une parenthèse de vie.
Oui, et c'est vrai que au bout de quelques temps, parce qu'elle passe avec eux plusieurs années, donc forcément, au bout de quelques temps, elle fait partie de leur vie, ils font partie de la sienne, et oui, ils sont devenus sa famille. Quand vous êtes avec les mêmes personnes tous les jours pendant des années, forcément, la proximité, elle est inévitable. Et elle s'habitue à cette vie qui est finalement la vie la plus confortable qu'elle ait jamais expérimentée, parce que dès l'enfance, elle a été... elle a eu une vie très difficile dès l'enfance. Elle a perdu sa mère jeune. et elle a travaillé très jeune, enfin, comme beaucoup d'enfants anglais de cette époque-là. Certains étaient d'ailleurs, avaient des métiers bien pires que ceux qu'elle a dû exercer. Donc, oui, elle a eu une vie très difficile, toujours. Et finalement, depuis qu'elle est avec eux, elle n'a jamais aussi peu travaillé, elle n'a jamais eu aussi peu de contraintes.
Oui, alors j'aimerais. Il y a aussi la question de la mobilité et de l'immobilité dans votre livre. Mm-hmm. J'aimerais prendre des habitudes, adopter mes propres rituels, me sentir chez moi. Mais comment survivre ici en restant immobile ? Comment survivre ici en restant immobile ? Il y a la notion d'ancrage.
Oui. Oui, elle découvre ce que les Européens ont mis longtemps à comprendre, c'est que, effectivement, pour survivre sur ce territoire, c'est pas possible de le faire en étant immobile. Les aborigènes, eux, sont des semi-nomades et ils survivent sur ce territoire depuis 60 000 ans parce qu'ils sont semi-nomades, parce qu'ils l'habitent en marchant sur de vastes espaces. C'est la seule façon pour eux de pouvoir y survivre. Et il y a des régions, de vastes régions en Australie, où il ne pleut jamais, oui, peut ne pas tomber une seule goutte d'eau pendant 12 mois.
Oh là là.
Et ils sont quand même capables d'y vivre. Et, ils savent repérer la présence de l'eau à des kilomètres, juste en regardant un nuage de brume. C'est vraiment, ils ont une science en observant certains végétaux tout rabougris, ils trouvent de l'eau dans les racines. Ils ont une science de leur territoire et de la terre et de la nature qui les entoure, qui leur ont permis de survivre 60 000 ans, là où les Européens ont failli mourir de faim au bout de 2-3 ans. Quoi.
Comment avez-vous découvert cette culture aborigène, Agnès Clancier ? Parce que vous avez vécu en Australie, mais comment s'est fait cette découverte de la culture aborigène pour vous, par les livres, en allant dans le désert, en visitant, par l'archéologie, je ne sais pas, mais comment s'est faite cette découverte pour vous sur le terrain ?
Eh bien, autant par les livres que par la découverte des aborigènes d'aujourd'hui, c'est difficile de parler des aborigènes en général, parce qu'en Australie, d'abord l'Australie c'est un pays immense, avec des modes de vie très différents selon les régions, et les aborigènes eux-mêmes, selon qu'ils sont, beaucoup sont parfaitement intégrés, et ont des modes de vie qui n'ont aucune différence avec les autres parties de la population. Et puis il y a aussi, notamment dans le nord du pays et dans le centre, des villages aborigènes, qui essaient de garder leurs cultures ancestrales et qui ont du mal à y arriver parfois, et qui sont un peu, comment dire, les laissés pour compte du système, je dirais, qui sont un peu relégués
au folklore.
Oui, c'est un mélange de folklore et un mélange de misère aussi, voilà, de pauvreté, de différents fléaux comme l'alcoolisme, etc. Il y a aussi un peu, il y a aussi du racisme dans certaines régions. Bon, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé en Amérique. Donc, c'est difficile de parler des aborigènes d'aujourd'hui d'une manière.
Mais quel était votre premier contact avec cette culture ?
Je pense que le premier contact, ça a été les livres que j'ai lus sur l'arrivée des Européens, parce que, en fait, c'est eux qui ont décrit les premières interactions. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est passionnant, ça. Vous rendez compte, c'est ces officiers qui débarquent de leur bateau et qui tombent sur ces indigènes et qui les. Enfin, ils les observent, ils les décrivent de manière très très précise. Et donc, oui,
c'est des livres en anglais, des documents d'archives,
oui.
Que vous avez découvert sur place en Australie ou après dans vos recherches.
Oui, sur place, oui, sur place, bien sûr. C'est quand j'étais là-bas que effectivement j'ai découvert cette culture. Et alors, j'ai aussi essayer de la découvrir auprès des descendants, enfin des aborigènes d'aujourd'hui, qui essayent de perpétuer par la musique, par la peinture, leur culture, qui essayent de garder le peu qu'ils ont réussi à conserver, parce que il y a eu tellement de massacres que énormément de langues se sont perdues, des centaines de langues ont disparu. Et des clans entiers ont été exterminés. Et donc, avec toute la culture qui allait avec, parce qu'évidemment, c'est un territoire tellement vaste, il y a 4000 kilomètres entre l'Est et l'Ouest, presque autant entre le Nord et le Sud. Donc évidemment, c'était des... Par exemple, dans la manière de traiter leurs morts, les cérémonies funéraires n'étaient pas du tout les mêmes selon qu'on était à tel point du territoire ou à un autre point. Certains enterraient leurs morts, d'autres les brûlaient, d'autres les faisaient sécher sur des branches d'arbres. Enfin, tout existait. Et ça, c'est très important, la manière dont on traite les morts, c'est très significatif d'une culture. C'est très différenciant. Et donc, énormément de cultures différentes ont disparu totalement, et de langues et de récits qui se sont perdus évidemment.
Et le côté visuel, parce que là je vois cette très belle couverture, on voit tous ces petits points. Moi, mm-hmm. c'est ça, le tracé aborigène, les cercles, le cercle qui revient, la craie, le dessin. Quoi. Est-ce que vous avez été aussi sensible à cet aspect mystérieux de cette culture?
C'est vrai que, alors, évidemment, au XVIIIe siècle, la peinture telle qu'elle existe aujourd'hui, ça n'existait pas. Il peignait sur la roche, donc ça n'est pas tout à fait le même genre de dessin. C'était pas les mêmes techniques, mais dans leur manière de peindre aujourd'hui, ils ont gardé toute la signification. C'est-à-dire que un point, c'est un village ou c'est un lieu. Enfin, tout a un sens. C'est pas un dessin juste pour faire un dessin, quoi. Ça raconte des histoires toujours.
Bon, puisque nous parlons de points, on va parler du point à la note. On va écouter un peu de musique. Ça va nous détendre. Voilà. On va voir ce qu'on nous réserve en régie.
À vous souvent, lorsque l'été s'arrête, tu fais des confitures pour les petits enfants. La maison est si calme, c'est comme après la fête, on sourit de fatigue et de contentement. Ipopai gorowaro Pinanapon etambati Temukara Pimeari kapinuwe Nehina puna Kanje Naguru Sata Huro Wakiri So Wakiri So Oh Nei Nei Nge Nei Jukla Wakiri
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Voilà. Vous écoutez l'émission Bibliomanie, vous êtes bien sur Radio Libertaire. J'entends un petit grésillement à l'antenne. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sont peut-être les présences aborigènes qui nous contactent. Donc, je reçois aujourd'hui Agnès Clancier pour Dans le rêve de l'arbre creux, un roman qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Agnès Clancier, alors, la musique, on a parlé de l'aspect artistique de la culture aborigène. C'est vrai qu'il y a la présence de la musique, du rythme, qui est très importante. Voilà ce que vous écrivez. Une symphonie brute et ensorcelante, née du contre-champ des voix, au-dessus des basses puissantes du didgeridoo, du rythme des mains qui claquent, des pieds qui battent le sol. Les danseurs plantent leur récit dans la terre et l'écho de leurs pas sème leur rêve éclair et leur rêve pluie jusqu'aux confins de la plaine. La culture aborigène, c'est la culture des rêves. D'où le titre Dans le rêve de l'arbre creux, Agnès Clancier.
Oui, un titre qui a plusieurs significations. Oui, effectivement, le rêve pour eux, c'est leur mythologie, c'est leur... C'est là où ils inscrivent leur histoire, leur culture, qu'ils se transmettent notamment par les chants, par la musique, par les danses, oui, par les récits.
Alors, moi je trouve... Alors, dans le rêve de l'arbre creux, tout à l'heure, je vous parlais de... Vous avez une magnifique couverture hein, qu'on vous a faite. Je crois que c'est Sandrine Duvillier, d'ailleurs, on peut la citer, qui a fait ce visuel de couverture. Le thématique de l'arbre, comment est-il... cette thématique-là est-elle venue sous votre plume, Agnès Clancier? Parce que c'est vrai que on voit dans le rêve de l'arbre creux, il y a la terre, il y a le ciel, il y a les racines, cette notion de déracinement, je pense que c'est lié à ça.
Oui, oui, bien sûr. Elle rencontre cet arbre qui porte déjà beaucoup de récits en lui, comme beaucoup de... d'éléments du paysage.
Oui.
Chaque élément du paysage renferme des récits qui sont des traditions de restituer, de connaître et de transmettre. Mais elle en connaît quelques-uns. Au fil du temps, on lui donne accès à certains de ces récits, mais elle sait aussi qu'il y en a énormément qu'elle n'aura jamais accès. Et cet arbre, elle est fascinée par cet arbre, elle en fait son lieu de recueillement, de repos, de l'endroit où elle aime s'isoler. Enfin, et c'est un arbre où il y a beaucoup de vie, il y a toutes sortes d'animaux qui vivent là. Et puis c'est un énorme baobab avec un tronc creux et elle imagine que les récits se cachent là-dedans, les récits que les tribus ont confié à cet arbre.
Alors voilà ce que vous écrivez. Le récit coule dans mes veines, sève et racines. Il me lie à ce territoire, à ce peuple. Je deviens grain de sable dans le désert, brin d'herbe au milieu de la clairière. J'appartiens au vent et à l'eau vive. Un jour viendra où des ancêtres se souviendront de mon existence et de mon passage ici. Autre phrase, ça c'est pour donner envie aux lecteurs, hein, aux lecteurs, auditeurs, c'est sur les mythes, parce que les mythes sont très importants dans votre roman, Agnès Clancier. Les mythes voyagent, escaladent les siècles, depuis les premiers humains jusqu'au dernier de nos descendants, sillonnent l'espace, dessinent les confins de la terre, en sachant tout d'elle, ce qu'elle réchauffe dans ses entrailles, ce qu'elle laisse naître et périr. Les récits s'entremêlent, leurs trames enchâssées les unes dans les autres, des fils s'imbriquent et se rompent, des personnages reviennent sous d'autres noms, d'autres personnalités. On a l'impression, voilà, les mythes voyagent, les personnages aussi, et votre écriture aussi.
Oui, c'est très important pour elle, ce moment au sein de la tribu où un homme parmi les plus âgés de la tribu,
oui,
lui donne accès à certains récits. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle vit avec eux. Et pour la première fois, il lui dit tu peux entendre ce récit. Et on lui ouvre une porte qui effectivement lui montre que elle fait partie de leur univers désormais, puisqu'elle a accès à certains de ses récits. Et sa propre histoire est intégrée aussi dans leur récit. Et donc son existence prend une réalité nouvelle. C'est la marque de son intégration, enfin d'une certaine intégration. évidemment, elle n'aura pas accès à tous les récits.
S'inscrire quelque part.
Voilà.
S'inscrire dans le paysage.
Elle s'inscrit dans le paysage, elle s'inscrit dans les récits de la tribu. Et à partir du moment où elle fait partie des récits de la tribu, c'est qu'elle fait partie de la tribu, en fait.
Alors, il faudrait que vous nous parliez de la langue des Éoras. C'est, je crois que c'est des aborigènes de la région de Sydney. On m'a dit que les Éoras comprennent généralement trois clans principaux, Cadigal, Voinegal et les peuples... alors là, je ne sais pas, Camérégal, voilà. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette langue des Éoas, Agnès Clancier? Mais c'est rien que le mot est fascinant, Éoas.
Oui.
Il y a un côté aérien.
Alors bon, je ne la connais pas la langue, mais elle, elle en a appris quelques bribes quand elle était à la colonie. Et un des lieutenants, d'ailleurs, avait commencé un dictionnaire, un lexique. Il avait une relation amoureuse avec une jeune aborigène et il mettait beaucoup d'énergie et d'enthousiasme dans l'apprentissage de cette langue. Et donc, il mettait à la disposition des autres, enfin des autres officiers, de toutes les personnes intéressées, ce dictionnaire qu'il était en train de constituer. Donc, il y avait, quand elle a quitté la colonie, elle connaissait des bribes de cette langue et elle avait déjà eu passé du temps avec une famille d'aborigènes qui... parce qu'il y avait des relations entre les prisonniers, les soldats et certaines tribus qui vivaient autour de la colonie pendant cette période assez brève où l'entente était... les échanges étaient cordiaux. Voilà. Avant que ça ne se dégrade par la suite. Mais évidemment, la tribu par qui elle est finalement adoptée...
elle est adoptée, voilà.
Beaucoup plus loin dans le nord du territoire, ne parle pas du tout la même langue. Donc, elle repart à zéro. Elle ne les comprend pas du tout quand elle les rencontre. Elle ne connaît aucun de leurs mots. Et d'ailleurs, à un moment de l'histoire, donc, cette tribu participe à un grand rassemblement de centaines d'autres tribus et de clans... c'est un rassemblement qu'ils font régulièrement, enfin, où ils se retrouvent et où les récits circulent justement et s'échangent. Et elle essaye de chercher dans cette immense plaine où se retrouvent tous ces clans des gens qui connaissent la langue des Éoras et elle n'en trouve pas. Elle n'arrive pas à en trouver.
D'ailleurs, vous parlez, c'est le moment de l'apprentissage de la langue, l'apprentissage sonore, parce que en fait, aborigène, pour moi, c'est le jeu de résonance aussi. La résonance. Mais déjà, alors moi, je prononce mal, hein, les auditeurs m'excuseront, paramial, frappe deux baguettes l'une contre l'autre, d'un rythme lent et entêtant, suivi par Biliabo, Murung et les autres. Gali se joint à elle en frappant l'un contre l'autre, deux boomerangs. Au son curieusement métallique. Les femmes entonnent alors à mi-voix une série de phrases musicales, dissonantes et répétitives, dont les gammes se dispersent peu à peu en différents tempos, dans une effervescence sonore qui finalement devient mélodieuse. C'est un peu comme le phénomène de l'écriture, dans une effervescence sonore qui finalement devient mélodieuse. L'impression de l'avoir presque le chemin de l'effort de l'écrivain aussi pour rassembler des sons qui sont apparemment disparates et qui vont donner sens à l'histoire.
C'est vrai que c'est la même chose pour la langue et pour la musique. Au début, pour elle, ce ne sont que des sons un peu discordants, pas harmonieux, elle n'en discerne rien. Et puis petit à petit, elle va se familiariser avec ces sons et la musique devient de la musique et les mots deviennent une langue et prennent un sens. Ça prend du temps pour elle.
Bien sûr, et vivre au rythme de la terre, parce que c'est une... Je dirais qu'elle a l'oreille collée à la terre, forcément. La terre respire, on la voit se soulever, doucement reprendre sa place dans son haleine parfumée. La nature se fait voluptueuse et légère. On voudrait flâner éternellement dans ce printemps. C'est le printemps, le temps de sa jeunesse aussi. Il y a une forme de renaissance, on disait tout à l'heure, de se trouver, elle s'est évadée... Elle a redécouvert la nature, elle est adoptée par une tribu.
Et l'absence de murs, l'absence de bâtiments, il n'y a rien qui arrête le regard. Il lui reste très peu de vêtements. Bon, elle garde encore une certaine pudeur, donc elle est la seule à être encore un petit peu habillée. Mais enfin, elle n'a plus beaucoup de vêtements, il n'y a plus de murs, il n'y a plus rien. Elle n'a plus rien et finalement, ça lui confère une liberté et une immédiateté avec la nature, un contact immédiat, sans intermédiaire, la perception de ce qui l'entoure devient beaucoup plus vive, aiguë, présente, enfin...
Le soir, nous sommes assis devant le feu, appuyés l'un contre l'autre, à contempler nos paumes écorchées dans la caresse des flammes, la douceur et la fatigue de nos corps endoloris. Yulungu dit que le puits que nous avons creusé sera encore là pour les enfants de nos enfants. Ça, c'est beau parce qu'en fait, c'est le retour aux trois fois rien qui dit beaucoup. Enfin, c'est le retour à l'arte povera, à l'art culture du peu et à des gestes aussi simples, se réchauffer autour d'un feu.
Oui. Et puis la mention des enfants de nos enfants, c'est une autre, un autre pas qu'elle franchit dans l'adoption dans la tribu de par son oui, c'est vraiment un pas important pour elle, quoi. C'est vraiment devenu sa famille.
Et puis alors des personnages, alors c'est des personnages presque dansants, Agnès Clancier, que vous, on a presque voir des personnages dansants sur une fresque. À la nuit tombée, alors là aussi j'ai du mal à dire les noms, Yakal Rivoui, peut-être, je sais pas, se lève, ses jambes tremblent comme des flammes et sa silhouette se détache sur le ciel clair que balayent des traînes de nuages orangés, filamentés d'or et d'argent. Longtemps, il danse seul, puis d'autres le rejoignent, qui miment à leur tour des animaux, des activités, des cartes et des plans, des éléments et les saisons. Ils sont émus, ibis, lézards, pélicans, wallabies, des rochers, imitent le cri des caratoès et rient comme des cucuburas géants. Ils sont chasseurs, pisteurs, semeurs de feu et lanceurs de pluie, cueilleurs ou pêcheurs. Ils sont chemins, collines et ruisseaux, nuages et ondées, ils sont la foudre et le vent, ils sont l'hiver et l'été, et en les regardant, je suis tout cela avec eux, dépouillé de mes peurs, libéré du souvenir, même de mes chaînes. Je lis nos vies dans les mouvements des corps, dans l'expression des visages qu'accompagne le souffle profond du DJ Rido. Mais il y a un côté un peu Giono, hein, dans tout ça, je dirais. Oui, il y a un côté... non, mais il y a un côté colline, justement.
Oui, en fait, ce qu'elle découvre en regardant ses chants et ses danses, c'est comme si elle lisait des livres, en fait. En fait, elle lit des livres en les regardant. Et c'est tout à fait ce que signifie cette culture. Quand ils dansent, moi je me souviens, j'étais vraiment fascinée par ce qu'ils sont capables d'exprimer. Par leur danse. Effectivement, ils se transforment, ils racontent des histoires. C'est comme si on lisait un livre.
Voilà, vous parlez d'ailleurs d'un récit à plusieurs voix, est un labyrinthe de vers qui reviennent et se répondent, tissant plusieurs histoires. Et c'est vrai qu'on a l'impression que presque vos personnages, qui, je l'ai dit, ne sont pas des personnages classiques, dans le sens où ce sont des silhouettes. C'est un jeu de silhouettes sur un fond de paysage. Et on a l'impression qu'ils cartographient, que votre histoire se cartographie comme elle apparaît comme une fresque aborigène. Enfin, on a vraiment ce sentiment-là en vous lisant, Agnès Clancier. Je suppose que ce n'est pas vraiment voulu, mais c'est venu en cours d'écriture. Cette approche de la fiction.
La comparaison avec une fresque, oui, en ce sens où ils font partie du paysage, ils font partie de cette terre. Ils en sont une partie intégrante. Le territoire vit par eux, par leur récit. La terre respire par eux, par leurs chants, leurs danses, leurs écrits sur la roche. Et inversement... eux ne vivent que parce que ce territoire...
Il y a un jeu d'orchestration, de résonance,
d'échange entre la terre et eux.
Oui. Alors on va faire encore une pause musicale et après nous reprenons notre chemin sur les routes de l'Australie et des aborigènes.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, avec Agnès Clancier, qui vous dit tout de son nouveau roman, Dans le rêve de l'arbre creux, qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Alors, Agnès Clancier, c'est vrai que c'est une histoire un peu mouvante que nous parlons, puisque c'est un jeu de silhouette. C'est l'errance d'une femme dans le désert australien, on peut dire, dans ses terres, son adoption, son cheminement avec une tribu aborigène. Et puis, dans cette tribu, un jour ou l'autre, arrive ce qui arrive d'ailleurs. J'ai trouvé là, il y a un mousse qui a la variole, qui arrive, qui est très malade et qu'elle va essayer de soigner d'ailleurs. Enfin, elle essaye. C'est un peu l'arrivée de la maladie via corps étranger, si je peux dire. C'est très important parce que finalement, dans ces terres, les questions des épidémies ont été capitales.
Oui, bien sûr.
C'était une volonté pour vous de jouer un peu sur ces... Il y a le premier degré et second degré, j'allais dire. Il y a à la fois... Ce personnage est assez emblématique, j'ai trouvé.
Oui, il est très symbolique, ce petit mousse, effectivement, qui fait irruption dans leur monde. Donc, ça fait plusieurs années qu'elle vit avec cette tribu aborigène, dans la sérénité, la sérénité, c'est-à-dire qu'elle n'a plus peur, elle n'a plus faim, elle ne souffre plus, elle n'a plus besoin de travailler comme un forçat. Enfin, elle a trouvé une vie paisible, heureuse, protégée. Et au point qu'elle est plus si pressée de retourner en Angleterre, qu'elle voit passer des bateaux le long de la côte, ils s'arrêtent, ils ne s'arrêtent pas, ça a plus l'urgence que ça avait au début, jusqu'à ce qu'effectivement, un de ces bateaux laisse sur la plage, abandonne ce jeune mousse qui est en train de mourir et qui est abandonné par l'équipage pour une bonne raison, c'est que sa maladie est contagieuse, il s'agit de la variole. Et donc la tribu recueille ce malade. Elle essaye de les prévenir que c'est dangereux, qu'il vaudrait mieux le laisser seul et ne pas s'en approcher. Mais la tribu ne veut rien entendre et inconsciente du danger, le recueille, le soigne. Et donc ce petit mousse va lui donner des nouvelles de la colonie, puisqu'évidemment le bateau a fait escale à Sydney avant de longer la côte nord. Il lui donne des nouvelles de la colonie, de l'Europe, et avec lui, elle retrouve un contact avec un compatriote, et donc ses interrogations renaissent sur un éventuel retour. Et oui, c'est un peu le début de la fin, parce que effectivement, bon, il finit par mourir, ce jeune mousse. Ouais. Et puis, ce qui était prévisible se produit, c'est-à-dire que d'autres tombent malades. Et donc, elle voit autour d'elle la tribu
se décimer.
Devenir la proie de cette maladie qui a déjà détruit beaucoup de tribus aux alentours de la colonie l'année précédente. Elle a été témoin de ça, donc elle sait les ravages que ça peut faire.
Que ça occasionne.
Et là, c'est un peu la fin du bonheur pour eux. Enfin, elle a vécu plusieurs années heureuses avec eux, dans l'insouciance et dans la sécurité. Et c'est le premier signe que le destin, finalement... Se renverse.
Enfin, oui, il y a un tournant là. Il y a un tournant. Il se prénomme Samuel. Des matelots de son équipage, profitant de sa faiblesse, l'ont traîné en pleine nuit vers une chaloupe qu'ils ont manœuvrée en silence jusqu'au rivage. Là, ils l'ont abandonné au pied d'un arbre et sans un mot, sans se retourner, sont remontés dans leur embarcation. Donc, c'est l'histoire d'un abandon et elle dit « Je ne peux me résoudre à toucher le varioleux », c'est comme ça qu'elle est nommée. Et après, c'est évidemment l'arrivée de la mort aussi. Les blancs apportent la mort avec eux, dit une voix derrière les arbres, que je ne reconnais pas. Nous le savions, poursuit la voix, des récits sont venus jusqu'à nous. Donc c'est le côté mythologique, le côté retour de l'histoire, retour de la malédiction aussi, oui. Peut-être.
C'est vraiment la fin d'une période pour elle, parce qu'elle découvre à cette occasion que finalement... Elle était consciente qu'elle ne savait pas tout, qu'on ne lui disait pas tout et qu'elle n'avait pas accès à toutes les informations dont dispose le reste de la tribu. Mais elle découvre que sur la colonie, par exemple, sur d'où elle vient, ils en savent finalement beaucoup plus que ce que ce qu'elles pensaient, parce que des récits sont venus jusqu'à eux. Et non seulement des récits, mais aussi l'idée que les Blancs, effectivement, apportent le malheur, apportent des maladies, apportent le conflit, prennent les ressources, sans tenir compte du fait que il ne faut pas en prendre plus. Enfin, il faut les laisser se renouveler, les ressources, et que les Blancs, eux, ne comprennent pas ça. Ils pêchent trop de poissons, ils tuent trop d'animaux, ils coupent trop d'arbres, et les indigènes ne comprennent pas pourquoi ils détruisent l'environnement qui permet de survivre. Et oui, elle découvre donc qu'ils sont déjà conscients de tout ça. Et que pour elle, et qu'elle reste une étrangère pour certains d'entre eux. Et qu'elle, voilà.
Mais c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que tout remonte un peu à la surface. Par exemple, vous parlez de la justice coloniale, 300 coups de fouet et 6 mois offerts pour avoir volé des pommes de terre dans un jardin. Voilà le justice de la colonie. Donc tout remonte. Par exemple aussi, deux fois veuve, Stephen avait été pendu 3 semaines plus tôt et j'avais à peine achevé ma lettre à sa mère. Une lettre pleine de mensonges. Votre fils est tombé en héros. La mère d'un soldat n'a pas besoin de la vérité. Pas besoin de savoir que son enfant est mort d'inanition. Donc elle se il y a tous ces souvenirs, on a l'impression à ce moment-là, qui reviennent.
Oui, bien sûr.
Comme le flux et le reflux des vagues, ça revient, ce garçon qui va mourir. Voilà, elle se souvient de tout, de l'avant, de l'après, peut-être de là après, le futur aussi qui revient, mais enfin la nécessité aussi de quitter à nouveau.
Elle prend conscience que son passé la rattrape, en fait. Et c'est tout à fait ça. Le fait de, enfin, la découverte de ce petit mousse et son passage au sein de la tribu, c'est son passé qui la rattrape.
Condamnée à vie, j'ai été une fois débarquée à Port Jackson, inscrite par erreur au registre de la colonie pour une peine de 14 ans, une méprise. Donc voilà, on sent vraiment que elle fait le bilan de sa vie à ce moment-là. Et que cette mort-là, c'est la mort de trop. Enfin, c'est une mort peut-être pas de trop, c'est la mort qui va lui faire encore rompre les amarres pour aller encore ailleurs.
Disons que, après la mort du mousse, il y a aussi la découverte de cette tribu massacrée.
Oui.
Et la découverte par la tribu qui l'a adoptée et par elle-même que la vie ensemble n'est plus possible.
Vous écrivez « Nous empruntons des sentiers muets, orphelins de trop de récits, dont le sol se marbre de longues traînées vermeilles, le sang des Capalis et des siens. » Donc il y a la terre ensanglantée, il y a cette notion-là. La guerre, il y a la mort, il y a tout ça. Oui. Il y a les hommes qui ne se font pas de quartier d'ailleurs, c'est terrible. Mais qui voudra fréquenter une ancienne déportée aux frais du roi pour être libre? Je dois enterrer mon passé derrière moi, me laver de tout ce qui pourrait me trahir, me garder d'avoir besoin des autres. Le temps est mon allié, je suis bien où je suis.
Oui, ça c'est ce qu'elle pense à un moment donné, mais finalement elle se rendra compte qu'elle ne peut plus rester. Parce que les conflits qui ont prospérer autour de la colonie au fur et à mesure que celle-ci grandissait et qu'elle n'a pas vécu puisqu'elle elle n'y est plus, mais dont elle entend parler par le mousse, sont montées jusqu'à ce territoire où elle vit maintenant, et cela conduit à une séparation. Elle peut plus vivre au sein de la tribu. La tribu elle-même doit voit sa vie perturbée et doit aller à un grand rassemblement pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Ils doivent échanger entre eux pour... Elle ne sait pas trop pourquoi, mais ce qu'elle sait, c'est qu'ils doivent partir, que ça n'est pas le même départ que d'habitude, et qu'elle ne fait plus partie de leur présent.
Elle ne fait plus partie de leur présent. Alors, il y a cette phrase qui est très, très forte et très significative à mes yeux. « Tu dois conserver la trace de tes pas et désigner le lieu qui gardera ton récit jusqu'à ta mort. » C'est ce qu'on lui dit à un moment donné. Et cette idée de conserver son récit jusqu'à la mort, ça vous nous ramène. On a l'impression que chaque pas, d'ailleurs, est un peu une déchirure, que chaque cicatrice construit son histoire, construit l'histoire que vous êtes en train d'écrire, Agnès Clancier. Ça pourrait être marche ou rêve, hein, ce récit, mm-hmm. mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Quels sont un peu vos... Voilà, on a essayé d'évoquer la trame de votre roman, Agnès Cancier. Quelles sont un peu vos admirations littéraires, vos boussoles intérieures quand vous avez écrit ce roman?
Alors c'est vrai que quand j'écris un livre, je lis beaucoup de livres qui ont un lien avec l'histoire ou le lieu ou la période. Mes lectures sont très très orientées quand j'écris un livre. Sinon, les auteurs qui m'inspirent, que j'admire aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains. Joyce Carol Oates, par exemple, est un auteur que j'aime beaucoup. Philip Ross. J'ai beaucoup aimé Albert Cohen, Joyce. Chez les Français, j'aime bien Emmanuel Carrère, Lionel Duroy. Et il y a une autrice de nouvelles que j'aime beaucoup, Annie Saumont, qui n'est pas suffisamment...
Qui a eu son heure, a eu son moment quand même, Annie Saumont, à un moment donné.
Je trouve qu'elle n'a vraiment pas été reconnue à la mesure de son talent. Elle a écrit des dizaines de recueils de poésie, de nouvelles extraordinaires, ouais. Qui valent largement les meilleurs auteurs américains, mais je trouve qu'elle n'a pas été suffisamment reconnue. J'aime beaucoup cette autrice. Voilà. Sinon, mon livre me fait penser à ça. J'ai toujours beaucoup aimé les livres de l'obstination, Moby Dick, Barrage contre le Pacifique.
Histoire de quête de l'absolu.
Oui, voilà, Michel Strogoff, Autant n'emporte le vent. Quand les héros n'abandonnent jamais, vous voyez, voilà. Ouais. Elle est un peu comme ça, mon héroïne.
Oui.
Mon aviatrice aussi était un peu
comme ça. Oui, c'est pour ça, voilà.
Oui. Je suis. C'est ça qui me fascine.
Le combat.
L'obstination, le combat. Et plus que le combat, le fait de ne jamais se laisser, de ne jamais abandonner après un échec. Et d'être capable de supporter beaucoup d'échecs. Ça me fascine. Pour moi, les héros, ce sont ceux qui n'abandonnent jamais. Pas ceux qui réussissent à la première tentative, mais ceux qui n'abandonnent jamais.
Et comment écrivez-vous? Est-ce que vous avez des carnets? Est-ce que vous écrivez sur ordinateur directement?
Les deux, je prends des notes, j'écris beaucoup sur ordinateur, oui bien sûr, surtout sur ordinateur.
Le jour, la nuit, comment? Parce que ça dépend. Des activités professionnelles.
Alors, ça dépend des livres. Il y a des livres que j'ai écrits la nuit parce que j'étais trop occupée le jour. Ça m'arrive de moins en moins d'écrire la nuit, maintenant c'est plutôt le jour. Ma vie a changé, ma fille est partie, enfin bref. Oui, ça dépend des livres et J'écris de plus en plus la journée maintenant, oui.
Est-ce que la musique, vous pouvez écrire en musique ou pas?
Moi, j'aime le silence. J'aime beaucoup le silence. Pour moi, la plus belle des musiques, c'est le silence. Vraiment. Pas seulement pour l'écriture, mais pour tout, d'ailleurs. J'aime la musique, hein, mais le silence, c'est quand même la plus belle des musiques.
Est-ce que le titre est arrivé avant le texte ou le titre est arrivé après l'écriture du roman?
Le titre est arrivé très, très tôt, oui. Très, très tôt.
Est-ce que la première phrase a son importance? Est-ce que la dernière phrase aussi a son importance? Est-ce que vous pensez...
Toujours.
Voilà, bah oui. Votre première phrase, j'ai attendu la nuit. Mm-hmm. Et la dernière, je suis en train de regarder votre... tac, tac, tac. Posé sur l'horizon, quelques arbres secs brandissent leurs arbres décharnés, hantés par les mythes. Des mille en noir. Donc les notions de vol, les oiseaux sont très importants aussi, hein, le paysage. Est-ce que vous avez regardé des photos vous avez écrit ce livre à Paris ou aussi en Australie? Est-ce que c'est...
Alors celui-ci, je l'ai écrit à Paris, largement pendant le confinement d'ailleurs. Pendant que j'étais confinée, j'étais en réalité dans le bush à la fin du 18e, donc j'étais en réalité dans de grands espaces.
Ouais.
Donc j'ai très peu souffert du confinement en réalité. Oui, non, c'est dans ma tête tout ça. J'ai pas besoin de...
Est-ce que votre personnage, vous avez encore envie de la faire revivre dans un autre roman?
Ah non, mais non seulement j'ai envie, mais je pense que ça va être une nécessité. Disons que déjà, quand j'ai écrit Port Jackson, je la voyais vieille dame.
Oui.
Et je sais où elle est, vieille dame. Je vous le dirai pas, mais je sais où elle est. Et alors, elle est encore jeune, dans Le rêve de l'arbre creux, elle est encore jeune. Donc je peux encore écrire plusieurs livres, en réalité.
Oui.
Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que je sais quelle vieille dame elle devient, mais entre les deux, je ne sais pas ce qui lui arrive encore.
Et quand vous écrivez, il y a toujours une part d'inconnu?
Ah oui, toujours, parce que l'écriture commande beaucoup de choses. Et puis, oui, oui, bien sûr. Il y a une part d'inconnu, bien sûr. Il y a des choses que je découvre moi-même.
Ouais. Oui. Le roman, c'est la vie, c'est-à-dire, comment vous avancez dans un roman?
Alors, ça dépend des livres. Ils sont tous différents. Et ils se construisent tous de manière différente. Celui-ci, vraiment, je me suis laissée porter par le paysage, oui, par... et par la culture de ce peuple. Oui, je me suis laissée porter. Et puis par l'histoire aussi que l'on connaît. Par exemple, une femme blanche a été vue par des bateaux à la même époque. Des bateaux qui longeaient la côte ont vu une femme blanche parmi les indigènes à cette époque-là.
Donc, il y a une part de vrai, déjà.
Voilà, c'est pas totalement absurde ce que je raconte.
Ouais.
Je me suis raccrochée quand même à des choses réelles.
La part de mystère est importante ? Parce que vous parlez... cette fascination de cette femme dont on vous a parlé. Donc, écrire, c'est aussi chercher à élucider un mystère ou,
bien sûr.
Ou créer du mystère, peut-être aussi dans le mystère ou dans l'énigme.
Chercher, ça c'est, pour moi, c'est très important dans l'écriture, chercher, découvrir, apprendre. Oui, c'est une exploration, toujours. C'est toujours une exploration.
Et vos projets, est-ce qu'il y a le prochain livre, il sera conseil, c'est un roman, de la poésie?
Alors, le prochain n'est pas vraiment un roman, mais c'est encore une femme. Ce sera plutôt... Alors, pas contemporain, mais elle est plus proche de nous, disons. C'est une femme qui a existé, à qui j'ai voulu rendre hommage, parce que son œuvre me fascine. Mais je n'en dirai pas plus, parce
que c'est normal.
Suis très... Superstitieuse.
Oui.
Et sinon, j'ai d'autres projets, oui, que je vais... J'ai plusieurs projets de livres, oui.
Plusieurs projets. Alors, il y a des livres qui sont faits, en train d'être faits. Vous écrivez plusieurs...
Il y en a un que je suis en train de terminer.
Oui.
Donc, c'est sur cette femme dont je vous parlais.
Oui.
Et là, je vais me lancer dès l'automne dans un autre projet différent. Encore plus proche de nous, je pense. Mais plus fiction, cette fois.
Parce que vous avez écrit combien de romans? C'est le septième, celui-là?
C'est le dixième. C'est le dixième livre, mais ce ne sont pas que des romans. Sur les dix livres, il y a deux récits, un recueil de poèmes, et le reste, ce sont des romans.
Et la poésie, vous reprenez un petit peu, peut-être?
La poésie, c'est compliqué. Mon recueil de poèmes, j'ai mis 10 ans à l'écrire, parce que la poésie, c'est curieux. On pourrait penser que ça prend moins de temps,
oui,
mais
en réalité, c'est pas vrai.
J'ai envie d'en écrire, mais comme quand je suis dans un roman, ça m'est très difficile de faire autre chose. Parce que je suis dans cet univers, je vis avec mes personnages, j'y pense tout le temps. On n'écrit pas que quand on est à sa table. C'est aussi dans la vie. Tout en faisant autre chose, il y a des choses qui surgissent. Et c'est comme ça que les livres se construisent, d'ailleurs, beaucoup plus que dans la transcription. Et donc, la poésie, il faut presque plus de concentration. Si j'ai du temps, oui,
Vous reprendrez le chemin de la poésie,
oui.
C'est ça?
Alors, ça m'arrive d'en écrire un petit peu, mais c'est vraiment des textes très courts.
Et les nouvelles?
Les nouvelles aussi, ça fait partie des choses
qui pourraient.
J'en ai quelques-unes, mais pas assez pour faire un recueil encore.
Bon, écoutez, merci à vous Agnès Clancy pour Dans le rêve de l'arbre creux. C'est un roman, ça vient de paraître aux éditions du Sonneur. Je signale à nos auditeurs qui peuvent réécouter cette conversation et cette émission sur le site de Radio Libertaire. Vous avez ce qu'on appelle un podcast, vous pouvez télécharger l'émission. Et puis après, vous pouvez mettre le lien aussi sur les réseaux sociaux et partager aux amis de vos amis. C'était l'émission Bibliomanie qui était aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand avec à la technique Flo des Cailloux. D'ailleurs, je ne vous ai pas interrogé, je crois qu'à un moment donné, on vous parlait des cailloux.
Bien sûr.
Voilà, on en parle avec les aborigènes, Agnès Clancier. L'émission Bibliomanie, voilà, une première émission de l'été, dernière de la saison. Donc, je vous retrouverai à la rentrée. Et merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ce voyage auprès de la culture aborigène. Merci à vous tous et à la fois prochaine.
Merci beaucoup, Valère.
Merci.
Alors, pour la musique, eh bien là, nous quittons les îles. Tout à l'heure, c'était des musiques des îles. Et un grand disparu récemment, Christian Escoudé, le guitariste de jazz. J'ai choisi dans son dernier disque avant sa mort, « I'll see you in my dreams ». Thank you.
See you.